de votre écoute, je le dis à l'avance. Je suis un tout petit peu intimidée parce que je vais commencer par remercier notre cher président de m'avoir convié à prononcer cette conférence devant cette docte assemblée. Parce que je ne suis pas historienne, vous l'avez compris, et c'est par un hasard incroyable que je m'installe, que je peux vous présenter le ballet du tabac et trois personnalités majeures autour de l'année 1650, acteurs et actrices de la naissance de l'art baroque. En fait, ce hasard qui fait que je suis devant vous, c'est dans une corbeille de l'hôtel Drouot que j'ai trouvé dans les années 80 le fac-similé du ballet du tabac, dont vous aurez en détail la description. Voilà. Je le montre, voilà, avec toutes les figures de ce ballet. Et nous allons pouvoir voir dans les sources, photo numéro 2, donc que ce fac-similé est très rare, puisqu'il est dans les archives, donc de, vous voyez ici, Flamme et fumée, un périodique donc créé en 1954. Je ne pouvais pas imaginer que je pourrais parler de ce ballet devant un public savoyard. Alors, c'est avec trois rencontres que je vais vous convier. La première, c'est celle de Jean Nico. La seconde, c'est celle de Christine de Savoie. Et la troisième rencontre, c'est celle d'un certain Philippe Daguillet. Alors, quelques questions. Je commence juste par quelques questions. C'est-à-dire, c'est dans mon introduction. Comment et pourquoi il tabacco balletto, ou ballet burlesque, dansé une seule fois à la cour de Savoie le 1er mars 1650, s'est-il placé de manière exemplaire dans l'institutionnalisation d'un nouvel art de danser qui deviendra une musique rituelle profane au XVIIe siècle? Et comment avons-nous aujourd'hui une connaissance aussi précise d'un divertissement d'un seul soir? Autre question. Comment et pourquoi une herbe fumée par des Indiens et ramenée en Europe en 1492, portant le nom de pétoum, apportée sous forme râpée à Catherine de Médicis pour calmer ses maux de tête, et ainsi mise à la mode sous le nom d'herbe catherinaire, qui prit ensuite le nom de tabac, pour finalement, et seulement en 1809, faisant suite aux travaux d'un chimiste, celui-ci lui donna le nom de nicotine en hommage à Jean Nico. Enfin, des Indiens à la cour de Christine de France, fille de Henri IV et sœur de Louis XIII, épouse de Victor Amédée, qui fut la première Madame Royale, c'est à la découverte d'un fait socio-historique majeur en Europe que cette conférence vous convie. Alors, notre première rencontre. Eh bien, notre première rencontre, c'est qui est Jean Nico? Il est né en 1530 et il est mort en 1600. Nous avons son épitaphe. Nous n'avons absolument pas de portrait. Nous avons son épitaphe. Sigi, noble homme Jean Nico, natif de Nîmes en Languedoc, en son vivant conseiller du roi, en conseil d'État et privé et ambassadeur en Portugal, maître des requêtes des défunts rois et dauphins français et reine-mère des rois derniers décédés qui trespassa à Paris le 10 jour de mai 1600. prier Dieu pour son âme. Cette épitaphe figure dans tous les épitaphiers des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est parvenue jusqu'à nous malgré la destruction de la vieille église Saint-Paul des Champs, église paroissiale depuis 1107 et qui fut la paroisse des rois de France jusqu'au règne de Louis XI. Fermée en 1790, elle fut démolie en 1799. Donc de Jean-Nicot, nous n'avons pas le portrait, mais nous avons sa pierre tombale. Donc, ses armoiries. Elles sont encore au chevet de l'église Saint-Paul à Paris. L'œuvre et la vie de Jean-Nicot nécessiteraient une conférence à elle seule. J'ai choisi quelques étapes de la vie de cet érudit collectionneur, dont le nom, parvenu jusqu'à nous, a eu la singulière fortune d'être transmué en substantif et en adjectif d'usage international. Donc, encore une fois, ce qui est particulier, c'est que nous n'avons aucun portrait de lui. Alors, comment ce Nîmois d'origine, maître des requêtes, puis ambassadeur de France, introduisit-il auprès de la cour de France, et notamment auprès de Catherine de Médicis, l'usage des plans du tabac appelé pétoun, élevé par ses soins au Portugal? Comment ce remède, utilisé contre les maux de tête, prit-il le nom d'herbe de la reine avant d'adopter celui de nicotiane? Première étape, il y en a trois. Selon un acte du 21 octobre 1553, signé à Nîmes, on voit que maître Jean-Nicot, docteur en droit, est sur le point de partir en voyage à la cour pour y être au service de Monseigneur le garde des Sceaux de France. Son installation à Paris date donc de novembre 1553 et copie de cet acte est conservée aujourd'hui aux Archives nationales à Paris. Bien loin est la Tourmagne à Nîmes et le Temple de Diane. Il est conservateur de copies d'actes authentiques. Cette fonction est très importante. Elle est attachée au garde-robe suivant la cour et elle est la justification d'un besoin nécessaire au fonctionnement du pouvoir politique. Contrepoids à la centralisation, le souverain voulait garder un contact avec le peuple dont il était à la fois l'élu divin et le père. Au XVIe siècle, la cour se déplaçait en nombre. Le roi, la reine mère, les princes et princesses de sang royal, les grands prélats, les ministres, les maréchaux et les officiers généraux, les principaux courtisans, toute la maison du roi, officiers de la chambre, officiers de bouche et toute l'intendance. Alors, je me suis permis de reprendre ça parce qu'on savait à peu près quand même que les convois royaux étaient importants, mais là j'ai trouvé que vraiment on avait des chiffres assez étourdissants. Dans les plus grands déplacements, on comptait jusqu'à 8000 personnes et autant de chevaux, les coches, les voitures, les litières. Une véritable armée qui campait, non sans dommage ni sans friction, en terre d'accueil, heureuse de posséder leur roi en passant, mais sans vouloir être conquise. La conduite des affaires de l'État imposant la continuité, le roi et son conseil devaient avoir, pendant ses déplacements, devaient avoir à leur disposition en permanence tous les documents indispensables, c'est-à-dire le trésor des chartes de France. Comme on ne pouvait soumettre les originaux de la tour du Louvre au risque des voyages, c'est à partir de 1554, le conservateur Jean-Nicot qui gère les dossiers de copies enfermés dans des coffres aux serrures incrochetables, roulant derrière sa propre inconfortable voiture et sur un chariot gardé militairement. Donc, Catherine de Médicis, numéro 4. Alors, ce fut là pour lui l'occasion d'être auprès du soleil, de mettre en valeur ses qualités qui attirèrent l'attention de Catherine de Médicis, qui lui confia des missions personnelles en Italie. En cette première moitié du XVIe siècle, on assiste à un phénomène collectif d'une quête de la connaissance qui s'empare de nombre d'intellectuels dont Jean-Nicot fait partie. L'extension de l'imprimerie, la pénétration du nouveau monde élargit la vision de l'homme à un univers à la fois spatial et intemporel, où se confondent dans l'insondable mer et infini. Nico n'a pas échappé à ce mouvement interne qui ouvrait sa génération à toutes les inconnues, et particulièrement poètes, érudits, humanistes, linguistes, qui formaient son entourage familier. La seconde étape de sa vie, c'est l'enjeu d'une ambassade, 1559-1561. Le Portugal, attiré mais non encore absorbé par son puissant voisin de l'Espagne, avait signé un acte de confédération avec la France. Cela n'empêchait ni François Ier ni son fils Henri de maintenir leur alliance en contrepoids, si léger qu'il fût, par les promesses de mariage entre célibataires royaux ou princiers disponibles dans les deux cours. Car le Portugal était un centre d'attraction au-delà de la mince tranche de terre qu'il représentait sur 700 km de côte atlantique. Au-delà, il y avait Madère et les Açores, puis le continent inconnu du Brésil, et vers le sud, l'Afrique presque tout entière à conquérir, avec ses mines d'or et la Guinée, et au-delà encore, d'autres possessions fabuleuses, les Indes orientales, jusqu'à cet archipel des Moluques que s'arrachaient sans cesse flotte espagnole et flotte portugaise. C'est dans cet univers d'aventures et de découvertes les plus fantasmées entre l'ancien et le nouveau monde que Jean Nico devient ambassadeur près de François de Guise, cardinal de Lorraine. Pour quelle mission? Quels enjeux? Il consacre une partie de son temps et de ses recherches à réunir une documentation de première main sur la navigation et les expéditions commerciales et coloniales du Portugal. Ces informations relevaient directement de sa mission, et le danger de les recueillir et de les transmettre était presque aussi grand pour lui que pour ceux qui les lui fournissaient. Il entretient des relations, indirectement et secrètement, avec des pilotes portugais renommés pour leur expérience, dont il parvient même à débaucher quelques-uns qui ne consentirent à passer clandestinement les frontières qu'en ayant reçu l'assurance écrite du gouvernement français qu'ils ne seraient jamais expulsés vers leur pays d'origine où la peine de mort pour trahison les aurait attendus. Car rien n'était plus réservé que ce domaine de l'art et de la pratique maritime chez les nations ibériques qui avaient bâti sur lui leur empire et leur prospérité, ou chez les nations européennes telles que l'Angleterre, les îles océaniques ou la France, qui ambitionnaient toutes de protéger, voire d'étendre leur commerce extérieur et leurs implantations outre-mer. C'est ainsi qu'à la date du 26 avril 1560, Nico annonce l'envoi d'orangers, de citronniers et figuiers d'Inde et informe le cardinal dans une incidente. J'ai recouvré d'une herbe d'Inde de merveilleuses et expérimentées propriétés contre le noli metangere et les fistules déplorées comme irrémédiables par les médecins et de prompts et singuliers remèdes aux navrets. Sitôt qu'elle aura donné sa graine, j'en envoierai à votre jardinier marmoutier et de la plante même dedans un baril avec une instruction pour la replanter et entretenir, tout ainsi qu'est fait pour les orangiers. Pour Nico, il n'en sera plus question, du moins épistolairement, dans la suite de sa vie. Car, un an ou deux après ensemencement et repiquage, suivant la méthode européenne, dans les jardins de l'abbaye Tourangelle, qui était l'un des plus beaux bénéfices du cardinal de Lorraine, sans doute présenta-t-il ce plan à la cour. Car rien n'indique que Nico ait porté une attention particulière à cette curiosité exotique dont il ne connaissait pas même le nom. Parce que, bien sûr, là-dedans, il y avait sera le cabas, le tabac. Nico quitte Lisbonne le 3 ou 4 octobre 1561. Paris est désormais son port d'attache. Alors, il s'adonne à sa passion d'érudit et s'attelle à la préparation d'une édition critique d'un des premiers monuments de notre histoire écrite. Et il se passionne pour un grand œuvre qui l'absorbera pendant 40 années de son existence, soit l'analyse et la fixation de la langue française qui concernait alors directement ses amis de la Pléiade. Alors, cette curiosité s'était procurée. Les indigènes l'appelaient Pétoun. C'est ce qu'avait d'ailleurs indiqué deux années auparavant un cosmographe du nom de André Thévé. Dans son récit « Les singularités de la France antarctique » paru en 1557, ce monsieur Thévé décrit et illustre avec autant d'exactitude que possible ce « pétoun » qu'il dit utilisé par les Indiens seulement pour fumer. Lui-même garde le souvenir d'une malheureuse expérience car la force toxique des feuilles consumées sans être raffinées l'avait fait tomber en syncope. Alors, dans toutes ces variétés, enfin, ces différentes directions de la vie de Jean Nico, nous arrivons à la Nicotiade. Alors, c'est en 1567 que dans une édition de la Maison Rustique, déjà à l'époque, on pouvait trouver dans une librairie appelée « À la Samaritaine » qu'on voit apparaître le mot « Nicotiade ». L'auteur de l'article, un certain Jean Liébeau, docteur en médecine de son état, parle d'une nouveauté. Une plante depuis peu connue en France, à laquelle il attribue des vertus singulières et quasi divines. Il dit qu'il tient cette histoire d'un mien seigneur, premier auteur, inventeur et apporteur de cette herbe en France. Il l'appelle Nicotiane, du nom de celui qui en a donné la première connaissance en ce royaume. Auparavant baptisée herbe à la reine, la plante jouissait d'un caractère presque royal. Pourquoi ? Parce que, explique-t-il, elle fut envoyée premièrement à la reine mère par le seigneur qui en a été le premier inventeur. La plante est décrite par approximation et analogie, aucune méthode d'analyse botanique n'existant encore. Si le temps a rompu le fil qui nous permet de suivre tous les itinéraires de Nico à travers la carte littéraire de son siècle, nous le retrouvons dans les travaux d'aboutissement du dictionnaire François-Latin des Estiennes à la fin du siècle. Et pendant les 40 dernières années de son existence, notre érudit collectionneur se passionnera pour l'analyse et la fixation de la langue française, ce qui concernait directement ses amis de la Pléiade. Peu avant sa mort, Nico avait tracé un titre sur un manuscrit, Trésor de la langue française. Voilà. Avec pour sous-titre les commentaires de la langue française. Il n'en a pas connu la réalisation matérielle puisqu'il fallut attendre 2 ans pour mettre au point le manuscrit, le composer et obtenir du roi en 1604 un privilège de 10 ans, non seulement sur toute la juridiction du royaume, mais aussi contre les éditeurs faussaires de l'étranger, notamment les Genevois, coutumiers de ces éditions illicites. C'est donc à Jean Nico que l'on doit la première pierre de ce qui sera appelé 5 siècles plus tard le trésor de la langue française. Alors, j'ai résumé les différentes dates concernant le pétoun, le tabac, la nicotiane, et la nicotine, puisque en 1809, dernière date concernant Nico, la nicotine est découverte par un Normand, Louis-Nicolas Vauquelin, professeur de chimie à l'école de médecine de Paris. Et cet alcaloïde fut appelé nicotine en référence à Jean Vigo. Donc, le terme nicotial, figure dans le lexique du trésor avec la mention Jean Vigo de Nîmes, conseiller du roi, maître des requêtes de l'hôtel du dit seigneur. Voilà. Alors, Jean Vigo, son œuvre existe, l'homme n'existe plus. Nous n'avons pas de portrait. Il est devenu un prototype à une époque donnée, dans une situation donnée. Il s'est inscrit, malgré lui, dans l'évolution de nos comportements et de notre conscience, puisque, depuis 1809, l'alcaloïde, découverte par Louis-Nicolas Vauquelin, fut appelé nicotine, en référence à Jean Vigo. Alors, maintenant, nous passons à notre seconde rencontre. Alors, notre seconde rencontre, on va passer d'abord son portrait, c'est donc Christine de Savoie. Christine de France, pardon. Avec ses dates, donc 1606, née en 1606, morte en 1663. Alors, avant de parler de Christine, dite la chrétienne, jetons un petit coup d'œil sur la place de la Maison de Savoie en Europe, pour la replacer dans un contexte européen et non seulement italien, et encore moins savoyard du XVIe au XVIIe siècle, et où pendant les trois siècles de l'Ancien Régime, les États de Savoie ont connu 6 occupations étrangères, 5 occupations françaises et une espagnole, et de multiples passages de troupes espagnoles, françaises, lorraines, suisses, etc. Et donc, notre Christine de Savoie a eu une vie très tourmentée. Issue du second mariage de Henri IV avec Marie de Médicis, Christine, chrétienne, naît à la cour du Louvre le 10 février 1606. Elle ne reçoit que peu d'affection de la part de sa mère, intrigante et acariâtre, qui ne s'intéressera qu'à son second fils Gaston. Elle est encore très jeune quand un projet de mariage est formé pour l'unir au prince de Galles, futur Charles Ier d'Angleterre, mais les négociations s'avèrent difficiles et n'aboutissent pas. Un nouveau projet est présenté par la cour qui veut s'assurer un solide appui dans les Alpes et va remettre en valeur le traité de Brusoles prévoyant dès 1610 le mariage du prince de Pine avec la fille de Henri IV. Le cardinal Maurice de Savoie et l'évêque de Genève, François de Sales, conduisent avec succès les pourparlers nécessaires. Et le 10 février 1619, le mariage du prince du Piémont avec Christine de France est célébré au Louvre, à Paris, au milieu d'importantes festivités. Le 30 octobre 1619, le prince de Piémont et Christine de France font une entrée solennelle à Chambéry, accueillie par le Sénat de Savoie qui a largement participé aux dépenses engagées. Le passage solennel de la nouvelle dame des Alpes fut l'occasion de spectacles coûteux auxquels la cour de Savoie se livrait sans aucune retenue. Sur les bords du lac du Mont-Cenis, le cortège nuptial s'arrêta. Un combat naval entre Turcs et Chrétiens s'y déroula, évoquant sans doute l'inaccessible rêve des rois de Chypre, qui excita beaucoup pendant un siècle les successeurs d'Amédée VIII, ce duc de Savoie devenu à Bâle l'antipa Félix V. Christine a 13 ans, beaucoup de charme, une allure entière, de grands yeux bleus. Son mari, âgé de 33 ans, est déjà apprécié pour son honnêteté et son sens du devoir. Il devra participer aux nombreuses guerres dues à la témérité de son père, le duc Charles-Emmanuel, qui se préparait à abdiquer au moment où il meurt subitement le 26 juillet 1630. À 43 ans, Victor Amédée devient 12e duc de Savoie. Le voilà. Mais pourquoi ? Et il va être duc de Savoie pendant 7 ans, entre 1630 et 1637. Parce qu'il va mourir en 1637. Il va se consacrer à la renaissance de ses états, très affaiblis par les guerres qu'il vient de subir, et se révélera un souverain accompli. Christine lui donne 6 enfants, 2 garçons et 4 filles. La dernière, Catherine, naissant en août 1637, soit l'année de la mort de son père. C'est tout. Voilà la généalogie près. Vous êtes certainement rompu à toutes ces. Évidemment, à cette histoire des Savoies. Voilà, donc, alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on peut. Voilà, le mariage. Alors, François Hyacinthe, donc. Va être avant que Christine ne devienne complètement régente, il va régner de manière très courte, 4 ou 5 ans, je vais vous en parler, il va mourir, et là, donc, Christine va devenir la régente donc, de son domaine du chef de Turin. Charles Amédée mène à l'instigation de son épouse une politique pro-française. C'est lui qui remit à l'honneur pour la maison de Savoie le titre de roi de Chypre et de Jérusalem, revendiqué aussi par Venise et Florence pour Chypre ou la Lorraine pour Jérusalem. Il choisit l'alliance française lors de la guerre ouverte entre la France et l'Espagne en 1635. Et il mourut à 50 ans, donc, en 1637. Donc là, on arrive à la période de la guerre de 30 ans, hein, donc, qui a commencé, je crois, donc, en 1618, pour se terminer en 1648 au traité de Westphalie, mais où le duché de Savoie a été tiraillé entre les alliances avec l'Espagne, c'est-à-dire côté catholique, et donc les alliances avec les autres pays du Nord, donc, et notamment l'Allemagne. Donc, Christine a des beaux-frères. Elle a 2 beaux-frères, Thomas de Carignan et Maurice de Savoie. Ils prennent ombrage de ce choix de se rapprocher de la France et en 1634, ils vont rallier le camp espagnol tandis que le duc de Savoie accepte la direction de la ligue anti-espagnole que lui offre Richelieu. Il vient de remporter une victoire sur les troupes espagnoles et marche sur Milan lorsque le 7 octobre, il meurt subitement dans des circonstances troublantes. Je parle toujours donc de Charles Amédée. Dû à une fièvre maligne, selon les déclarations officielles, son décès sera attribué par une rumeur tenace à un empoisonnement criminel. Christine, que son mari désigne en mourant comme régente, a alors 31 ans, tandis que son fils aîné, François Hyacinthe, est âgé de 5 ans. Et il meurt cependant l'année suivante, en 1638, le petit François Hyacinthe. Voilà. Oui. Sa mère va désormais assurer la régence au nom de son second fils, Charles-Emmanuel, qui est âgé de 4 ans. Et elle décide de se battre pour conserver son royaume. La France cherche alors à tirer profit du trouble causé par ces événements successifs et tente de s'emparer de Turin. La régente déjoue rapidement cette tentative d'annexion et va pratiquer habilement une politique de rapprochement en renouvelant son alliance avec sa puissante voisine. Elle se rapproche de la France de Louis XIII tout en craignant Richelieu. Très fière de son ascendance, elle inscrit dans sa titulature après duchesse de Savoie, qu'elle est la sœur du roi très chrétien et reine de Chypre, et elle se fait appeler Madame Royale. Elle essaie de se rapprocher de ses turbulents beaux-frères qui n'ont rien gagné de leur alliance avec l'Espagne pour établir enfin la paix, ce qui aboutit à un compromis signé le 14 juin 1642. Elle donne en mariage à Maurice de Savoie sa fille aînée Louise-Marie, âgée de 13 ans, tandis que Thomas de Carignan, notre beau-frère, devient généralissime de l'armée franco-piémontaise. Un nouveau traité est signé le 3 avril 1645 pour confirmer les précédents accords avec la France et permet à la Savoie de recouvrer la possession des places du Piémont encore occupées. La paix enfin rétablie, Madame Royale va s'acharner à améliorer les conditions de vie de ses sujets et à reconstruire son duché. Elle supprime le conseil de régence au profit d'un conseil d'État qui met en place une administration forte avec centralisation des pouvoirs. Aussi efficace dans la prospérité qu'elle a été dans le malheur, elle parvient à sauvegarder l'héritage de son fils et à préparer son règne. Après avoir déjoué en 1647 un complot dirigé contre lui, elle décide une sorte de coup d'État pour mettre fin aux intrigues persistantes de ses deux beaux-frères. Le 19 juin 1648, on approche de 1650, elle proclame la majorité de Charles-Emmanuel II, qui vient d'atteindre ses 14 ans, faisant prêter serment d'allégeance au duc par les dignitaires de l'État. Là voici un cheval avec l'un de ses fils. Voilà, il est tout à fait vraiment comme Noël. Royal. Christine reçoit la lieutenance générale de Savoie et continue à prendre une part active aux affaires de l'État, essayant en 1658 de favoriser le mariage de sa fille avec Louis XIV. Bah, ça n'a pas marché. C'est donc pendant cette période que se situe le ballet du tabac, dansé à Turin le 1er mars 1650, le dernier jour du carnaval. Alors, pendant sa vie, Christine aura été l'objet de critiques en raison de quelques écarts de conduite, et surtout sa liaison prolongée avec Philippe de Saint-Martin d'Aguillé, marquis de San Germano, chevalier de l'Annonciade, surintendant des finances, ministre d'État, qui a toujours fidèlement servi les intérêts de sa souveraine, la conseillant habilement et n'hésitant pas à braver le ressentiment de Richelieu, qui le fit d'ailleurs momentanément emprisonner à Vincennes en 1640. Je vous en parlerai tout de suite après. Veuve à 31 ans, obligée de faire face à de lourdes responsabilités et entourée d'intrigues sordides, il est difficile de reprocher à Madame Royale des faiblesses qu'elle eut pour son favori. De plus, pourquoi ne pas adopter la vie du nonce de Turin, qui, probablement bien informé, estimait qu'un mariage secret avait uni les intéressés. Courageuse, diplomate, active et économe, Christine de France, digne fille de Henri IV, a défendu efficacement les intérêts de la Savoie contre ceux qui la convoitaient et croyaient profiter de la situation difficile où elle se trouvait. Alors nous passons à la troisième rencontre, c'est-à-dire M. Philippe d'Aguillé. Alors, où suis-je ? Donc, Philippe d'Aguillé dont je vous ai informé des différents titres qu'il avait obtenus auprès de Madame Royal. Donc, c'est en parlant de la musique et de la danse que nous allons le rencontrer. Donc, je vous propose de croiser nos regards entre l'Italie et la France pour assister à l'invention de l'espace chorégraphique, c'est-à-dire une invention vraiment de la danse et la découverte des premiers traités qui vont parler de la danse noble. Certes, donc, la musique et la danse et la musique accompagnent l'histoire de l'humanité et ce, dans toutes les civilisations. Mais comment, et surtout à quel moment en Europe, les danses populaires ont-elles évolué vers la danse noble ? De la première moitié du XVIIe siècle, les danses nous restent mal connues. Nous avons certes en abondance des partitions musicales, mais nous n'avons pas ou quasi d'écrits sur la danse. L'orée du XVIIe siècle est une période charnière. Un monde décline, voit sa cohérence entamée, une sensibilité est en train de se transformer. Les premières décennies du siècle prolonge le répertoire de la Renaissance. Elle n'en prolonge pas nécessairement l'esthétique. A l'inverse, ces mêmes décennies voient s'avancer des formes qui vont s'épanouir au siècle de Louis XIV. Mais là encore, elles ne se confondent nullement avec elles. Le peuple danse dans la rue, à la campagne. Il danse, on a tous entendu ces termes, des branles, des bourrées, des courantes, des gaillardes, qui sont des danses marchées ou glissées. Mais on ne saute pas. Le ballet de cour, au contraire, donnera naissance au genre baroque qui déclame et danse, qui se fait verbe et geste en même temps. Et le ballo, qui deviendra il balletto, berceau de l'art chorégraphique, va naître dans la péninsule italienne. C'est en 1439 que paraît le premier écrit chorégraphique de l'art de la danse noble en Occident. L'auteur, Domenico da Piacenza, est noble. Il est employé par la maison des Estri. Il écrit pour les nobles, il ballo nobile. Ce passage à l'écrit est un événement pour l'art chorégraphique. En effet, Domenico invente l'espace chorégraphique. Il invente qu'on peut danser à 3 et jusqu'à 11 danseurs, c'est-à-dire que les parcours au sol sont moins limités avec des séquences lentes et rapides. Ainsi va naître la belle danse, en opposition à la basse danse, danse populaire. Dès 1463, on voit apparaître un certain Guillermo Ebreo, maître à danser de Laurent le Magnifique. Il invente de nouvelles figures pour les danseurs, par exemple un homme entre deux femmes. Il organise des fêtes publiques, il est maître de cérémonie, terme qui apparaît à ce moment-là. Lorsque Laurent le Magnifique se marie en 1469 avec Clarisse Orsini, on danse. On sait que les deux ont appris à danser tous les jours, et ce dès l'âge de 10 ans. Devant leurs 1000 invités, se mettre en scène est nécessaire. Au moment où les mariages deviennent politiques, les danses s'officialisent, la fête est conçue comme une œuvre d'art, fête de douceur, d'harmonie et de suavité. La danse est symbole de paix pour les courtisans qui se pressent autour du prince, le modèle. Mais les Médicis étaient des marchands, famille de fabricants et textiles, c'est-à-dire des plébéiens. Au tournant du XVIe et XVIIe siècle, on trouve un traité d'Antonio Cornazzano sur les danses étrangères au peuple faites pour danser par des femmes nobles. Au retour des guerres d'Italie, Louis XII emporte la bibliothèque des Sforza à Blois et les Français découvrent des fastes, des fêtes italiennes alliant musique, poésie, art plastique et danse réglée. Devenue reine de France, Catherine de Médicis, experte en la matière, encourage le goût que ses fils Charles IX et Henri III développent avec leur maître à danser, deux Italiens, Pompeo Diabono et Virgilio Paracesco. Suit une période où l'on dispose de peu de documents. En 1527, les guerres, les ravages, les famines empêchent évidemment sans doute de danser. Un siècle plus tard, en 1641, on trouve dans le traité de Monsieur de Saint-Hubert la manière de composer et de faire réussir les ballets, un style qui se définit, s'enrichit, puis se codifie progressivement en France depuis la fin du XVIe. Élaboré comme la belle langue ou les belles lettres, il se fonde sur des critères esthétiques, métaphysiques et sociaux. Il privilégie élégance, équilibre, ordre, clarté et aisance naturelle des mouvements. La belle danse développe la grâce souveraine à partir de la maîtrise corporelle et mentale. Usité dans le bal comme dans les ballets de cour, des collèges religieux puis de théâtre, elle fait partie avec l'escrime et l'équitation de toute bonne éducation. Cette culture chorégraphique permet de comprendre pourquoi le ballet, qui se pique de logique, de cohérence, devient il balletto, spectacle brillant, qui évolue vers toujours plus de noblesse et de faste. Sur les spectacles savoyards, un nom dominera les trois quarts du XVIIe siècle, celui d'une famille piémontaise, née au pied des Alpes, dans deux châteaux proches d'Ivrée, avec le Cervin et le Mont Rose pour fond du décor. Cette famille, c'est le nom de San Martino et Aglié. La photo montre les armoiries de cette famille. Je n'ai pas d'autres détails, notamment la lecture des armoiries. Le marquis Ludovico di San Martino d'Aglié, ministre et ambassadeur, composa avec le duc Charles Emmanuel lui-même les premiers grands ballets et carousels. Là, je fais juste une petite parenthèse. Peut-être savez-vous que Louis XIII a composé des danses dont nous avons toujours les manuscrits. Bon. Donc, le marquis Ludovico compose lui-même avec Charles Emmanuel donc des ballets. Son frère Jules César, eut en 1604 un fils, Philippe. C'est lui qui devint, au milieu de fortunes diverses, l'étoile des menus plaisirs à la cour de Savoie. Les portraits qu'on nous en a laissés semblent tirés d'un conte de fées ou d'un roman de galanterie. J'ai pas trouvé de portrait, mais vous allez voir, il était pas mal. En effet, jamais on ne vit un cavalier plus accompli. Il avait la tête parfaitement belle, la taille fort agréable. Il dansait, il chantait, composait en musique, jouait d'instruments divers, versifiait en italien, en latin, en français. Il était metteur en scène, chorégraphe, décorateur, costume. Ses inventions étaient les plus spirituelles du monde, car il avait la tête pleine d'une infinité de dessins ingénieux, la mine riante, et il était fort bien fait. C'est ce cavalier accompli que remarqua très vite notre duchesse, de 2 ans plus jeune que lui, et qui n'était pas issu en vain d'Henri IV et des perles navarraises. À 19 ans, la vie de Philippe commence par un scandale. Il est blessé en duel par le comte Parella, qu'il a imprudemment provoquée. Ayant disparu à Turin, on le retrouve en janvier 1624 à Rome, près de son oncle Ludovico, qui le confie au cardinal Maurice de Savoie. Et celui-ci en fait son page et le charge de monter son premier divertissement. Chez les Carignan, encore le beau-frère, donc encore lui, le beau-frère, se joue à fond la carte espagnole contre leur belle-sœur devenue régente. Ils rejoignent le camp ennemi. J'entends celui de la guerre de 30 ans. Ici, je fais une parenthèse, car l'Espagne catholique est bien sûr en guerre contre les protestants. Richelieu et le père Joseph sont donc aux premières loges pour attiser les braises. Suivant sa devise, sans se départir, Philippe d'Allier reste fidèle à la régente et connaîtra succès et infortune politique, mais aussi une ascension continue. Il est conseiller du conseil secret, puis confident et négociateur secret, capitaine de la garde royale, surintendant des finances et sur le costume de satin blanc, recouvert du manteau de toile d'argent et de velours amarant, s'étalera enfin le grand collier au lac d'amour de l'Annonciade. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de reproduction, enfin il y en a une sur Gogol, mais enfin bon, c'est de l'Annonciade. Donc, toujours, il y a le musée de Saint-Tropez, peut-être que tout le monde connaît, de l'Annonciade. Il y a aussi des couvents de l'Annonciade, il y en a plusieurs en France, mais celui-là, cet Annonciade-là, c'est l'ordre de chevaliers créé par Amédée VI de Savoie sous le nom de l'ordre du Collier, création en 1364. Et c'est aujourd'hui encore un ordre honorifique dynastique de la maison de Savoie. Donc notre Philippe va porter le grand collier de l'Annonciade. C'est alors que de nouveau la politique entre dans la danse. En effet, pour tenter de rétablir son pouvoir menacé, Chrétienne se rend à Grenoble pour rencontrer son frère Louis XIII. Richelieu, vieux et impotent, despotique et aux aguets, a suivi. C'est lui qui dicte ses conditions. Remise du jeune Charles Emmanuel II pendant sa minorité, cession de l'une des clés de la Savoie, c'est-à-dire la forteresse de Montmélian. Tour à tour pathétique et désespérée, la duchesse défend pied à pied ses intérêts. À la table des entretiens, un jeune négociateur s'est lancé avec fou à la suite de sa maîtresse. C'est Philippe d'Allier. Richelieu ne lui pardonnera ni ses interruptions, ni son combat dans la cage au lion. Le colloque achevé, Turin reconquise avec l'appui de l'armée française, un soir de fête, au moment de Noël 1640, chez les Montbezat, Richelieu fait enlever brutalement Philippe d'Aguillé. La surprise est trop forte pour que personne ne réagisse. Transféré à Paris, Philippe est claquemuré à Vincennes sous un prétexte d'ordre moral. Les déportements trop publics de la duchesse. En réalité, vengeance. Richelieu le qualifie de jeune insolent, destitué de cœur et d'honneur et de toute expérience. Mais le vieux renard qu'est Richelieu a mal calculé. Chrétienne est tellement entêtée qu'elle ne démordra pas. Elle gardera son fils et Montmélian. D'Allier se résigne à rester en prison. 2 ans plus tard, la mort de Richelieu le libère et rentré à Turin. Il ne quittera plus celle pour qui il deviendra le metteur en scène de ses rêves et de ses illusions. L'imagination au palais remplacera la domination politique. Le calme est relativement rétabli et les beaux-frères, revenus assagis, sous la grande influence du soleil qui monte à la cour de France. Ainsi va naître Il Palaetto. Alors, Philippe Baglier a fait une œuvre de créateur de ballet. On n'a pas retrouvé la partition, bon, mais enfin, on a évidemment le ballet. Donc là, on a la photo 14. Voilà, c'est ça. Donc, il était doué d'invention, sans vigueur ni poésie, très effective, mais remplissant le spectacle d'imprévus, de jeux et d'éclats. Ainsi se marque l'œuvre de Philippe Baglier. Mais parmi ses créations, celle qui a le plus frappé ses contemporains, c'est le ballet du tabac. Il empruntait à une mode du jour son thème et une interprétation fantaisiste d'un phénomène qui se présentait pour les hommes du XVIIe siècle comme celui de la drogue aujourd'hui. Le tabac pose alors une interrogation inhabituelle, mais l'auteur du ballet est trop éloigné d'une prise directe de l'actualité de son siècle pour le traduire autrement que par des procédés traditionnels du merveilleux et de l'exotisme. Il lui donne cependant un ton dont il n'use pas pour la première fois. C'est ce qu'il appelle « ridicule ». Baglier dit « un balletto ridiculoso », comme Molière dira « les précieuses ridicules ». L'adjectif « ridicule » choisi pour qualifier un divertissement est du même ordre qu'un siècle auparavant, le mot « grotesco » est appliqué aux fresques inspirées par la découverte des grottes antiques à Rome ou à Naples. Le ballet du tabac est véritablement le premier objet baroque dont les contours débordent de la forme classique tout entier conçue pour le jeu. En France, c'est lui, l'Italien, qui va l'infléchir définitivement grâce à son sens dramatique avec l'aide de Molière pour la collaboration vers un maître en une dizaine d'années, le bourgeois gentilhomme, le mariage forcé, Georges Dandin, Monsieur de Pourceaugnac, œuvre dont aujourd'hui la partie musicale et chorégraphique est malheureusement toujours négligée. Elle existe, bien sûr, mais on ne la fait pas. Juste un mot sur Lully, qui finançait Louis XIV quelques années plus tard. Toute la carrière de cet étrange personnage se résume en une phrase. Alors, j'ai voulu vous la dire. Giambattista Lully, avec un I à la fin. Fils d'un meunier, né à Florence en 1632. Giambattista Lully, avec un Y, écuyer, secrétaire du roi, surintendant de sa musique, mort à Paris en 1687. Voilà. L'intelligence et la volonté du Florentin le mèneront au Parnasse, des artistes gravissant autour du roi Soleil. Comme vous savez, il fera danser le roi. Mère des arts, après la Grèce, l'Italie avait donné au monde la peinture. Au début du XVIIe siècle, elle donne au monde une apothéose musicale, l'art baroque. Juste un mot, quelques mots, sur ce terme de baroque. Ce terme va s'appliquer sans aucune nuance ou restriction à tous les phénomènes artistiques de la période 1600 à 1750. Sans distinction de genre ou de nation, il conserve une telle quantité de domaines, d'œuvres ou même d'objets que sa définition en devient impossible, qui dépasse les notions de style ou d'esthétique pour se confondre avec des concepts sociologiques, historiques, philosophiques et religieux. Dans le Larousse du XXe siècle, dirigé par Paul Auger en 1928, l'article baroque se fonde sur une étymologie sans ambiguïté, comme une perle qui s'écarte de la forme normale. pour indiquer que l'adjectif désigne par analogie tout ce qui relève d'un inattendu qui choque, que ce soit une remarque, un costume ou un style. À propos des arts, il s'agit d'un genre décoratif, chargé en ornements et un peu tourmenté. En bref, le baroque s'apparente à une nuance du bizarre. Au cours du temps, d'autres définitions du baroque sont apparues et nécessiteraient une conférence pour elles seules. Il faut attendre celle du Petit Larousse illustré de 1990, qui rejette toute connotation péjorative pour mentionner le mouvement poétique qui touche l'Europe. Il s'attache à définir les critères du style baroque, qui est exalté, mouvementé, contrasté, tendu et spectaculaire, notamment pour la musique. En rompant avec le style polyphonique, l'écriture baroque, mélodique et très ornée, favorisera la création de genres nouveaux, dont l'opéra, l'oratorio et la cantate. Pour la danse, maître mot sera donné au mouvement. Si les sauts n'exigeaient que peu d'élévation, ils imposeront désormais mouvement, amplitude et puissance musculaire, à l'instar des jeux de vagues des colonnades du Bernin. Les airs de danse populaires inspireront les compositeurs dans toute l'histoire de la musique. Jean-Sébastien Bach, avec ses suites, en est un bel exemple. Il y aura Brahms, Xardas, Chopin, etc., les menuets de Mozart et de Haydn. Alors maintenant, dansons. Alors dansons maintenant. Dansons maintenant. Alors, je ne résiste pas à vous lire un tout petit texte qui est de Charles d'Assoucy, intitulé « L'Ovide en belle humeur » et qui est daté de 1650, exactement comme notre ballet. Voilà ce petit poème. « Belle, donnez-moi votre ergo. Ce n'est pas pour ce qu'il vous semble, ce n'est que pour danser ensemble. Et vous faire dire hop gay au son d'un petit branle gay. Il n'est plaisir tel que la danse. » Voilà. Alors on va passer au ballet lui-même. Donc, là. Le décor. Voilà. Alors, donc, vous allez voir quelques photos, pas toutes. Donc, de ce très beau facsimilé, qui a toute une histoire dont les acteurs sont les nobles de la cour. Alors, voilà, le décor est planté tout d'abord entre deux avancées de palais en trompe-l'œil, de faux marbre blanc, mouluré et orné d'or, on voit apparaître sur un Pacifique idéal un archipel azuré au milieu duquel se détache l'île du tabac. L'argument nous prévient qu'il s'agit d'une île découverte en Inde occidentale par un conquistador de comédie qui apparaît dans le ballet. Les Indiens, qui peuplent l'île où prospère le tabac, habitent une sorte de camp, de tente blanche, qui allie un Orient de fantaisie à des pavillons baroques. Une atmosphère tropicale est créée de chaque côté, par une perspective de forêt où les palmiers se marient à d'étranges arbres issus de sapins montagnards. Voilà, c'est le suivant. Alors, le ballet commence par un sacrifice au nouveau dieu, qu'encensent quatre prêtres aux tuniques bleues coiffées d'une tiare aux écailles de métal, sommées de trois plumes rouges. Il s'agit bien d'un dieu qui n'est pas le mot d'or ou un dieu inconnu, mais celui du tabac, qu'encensent ses prêtres. N'oublions pas que le ballet est donné lors du dernier jour du carnaval et l'office présenté a de quoi combler de volupté sacrée les fumeurs déjà impénitents. Ce sont des dons du ciel que ces feuilles embrasées et de leur danse fumée naît le rire parmi les pleurs. Quand l'amour est vaincu par Bacchus, une pipe de tabac change la face des choses. Image osée et évocatrice, mais qui établit une nouvelle trinité, le vin, l'amour et le tabac. Photo suivante, Tapia et Paracusa. Alors, tous les personnages qui sont sur scène sont des comtes, des marquis, qui se présentent de torse moulé dans un brocart à fleurs d'argent, la taille cernée d'une collerette de plumes multicolores et de volants d'argent. Leurs jambes sont aussi bottées d'argent, leurs têtes sont couronnées de plumes et d'aigrettes de hérons. Tout ça coûte cher, hein ? Très cher, ouais. L'arc et le carquois qu'ils portent ne leur interdisent ni les bons, ni les sots, qui font virevolter sans les étreindre les tisons de tabac. Suivant. Bayam et Recifa. Alors, ils sont habillés juste au corps, striés d'or, d'argent et de pierreries. Des bracelets aux bras et aux jambes. Des écharpes blanches aux rayures multicolores, piquées de feuilles et de rubans. Pour prendre une pincée de tabac, ils font des pas de danse et ils portent des pots à tabac, précieusement ornés de coques de noix, de châtaignes et de cochenilles des Indes. Ensuite, cette photo présente 8 Indiens. Ils évoquent la douce gaieté de ces lointaines contrées. C'est une transition pour introduire au cœur du ballet l'apparition du jeune duc Charles-Emmanuel II. Après les « sauvages », entre guillemets, le tabac gagne les nations « civilisées », entre guillemets. Et par métaphore, le ballet introduit des allusions politiques, comme par exemple une turquerie représentant le sultan Mehmet, tandis que son partenaire, aussi rose et joufflu que lui, représente Ali. Photo suivant. Alors, les représentations de Mehmet et Ali. Voilà. Ensuite, alors, la vedette, passe à la suivante, je pense. Shinki et Artiloshi. Non, c'est. On peut revenir peut-être. Oui, on revient, pardon, en arrière. Donc, la vedette royale est revêtue d'un juste corps en poil d'argent, à fine nervure, ça. Longue manche remontée au coude, basque relevée par des aiguillettes, tout piqué de nœuds et de bouffettes multicolores. Au sabre qu'ils brandissent s'ajoute un autre accessoire, le turban rond, au sommet duquel se dresse un fez pointu que surmonte un croissant de lune flanqué d'aigrettes et de panaches. On se trouve ensuite chez les Maures Abdallah et Musa, qui sont interprétés par un cousin du metteur en scène, le marquis de San Damiano et le commandatore Valbiano, les comtes de Vial, qui portaient virilement une devise française « Regarde à toi ». Ils paraissent nus dans leurs collants obscurs sur lesquels se détachent des lanières de cuir tailladées sur fond incarnat et des flocons de soie claire. Une sorte de basque les habille pudiquement sous la tunique transparente, finement travaillée de rayures multicolores. Tous fument, rien que pour le plaisir, et les dames se récrient devant la grâce exceptionnelle de leur danse. La photo suivante montre Shinki et Artiloshi. Les interprètes portent une épaisse veste bleue sur une culotte d'incarnat, le tout brodé d'argent. Les rôles sont tenus par le comte Maurice Tavillier et le baron de Coire, qui jettent sur leurs épaules avec désinvolture une houppelande aux longues manches fourrées. Eux aussi jouent du cimetière, mais de leur bonnet à la polonaise s'échappent de longues plumes et des aigrettes. Messieurs les Polonais, sans contredire alors les gendres, réchauffe l'alcool avec le pétoun et le pétoun avec l'alcool. Recette pour éveiller les esprits engourdis. Voilà, photo suivante. Alors là, il y a un contraste. Voilà les ennemis et voisins historiques, les Piémontais. Deux caballeros portant leur chapeau haute forme, extravagant, emplumé de noir. Il s'agit du comte d'Arignano, de cette famille de banquiers génois, les Costa, dont les branches se sont ramifiées des deux côtés des Alpes. Leur sang leur brûle les veines. Ils sont en retard de quelque mode et il semble que c'est pour rendre leurs esprits plus actifs qu'ils fument de longues pipes en terre blanche. Le cœur cherche le secours dans le tabac, la fumée attise un souffle merveilleux, mais dans le remède se trouve la douleur et la fumée se gonfle de la superbe ibérique. Voilà, alors pour terminer, une aimable danse indienne termine les entrées, ils brandissent des tirses, ils brandissent des tirses où les plants de tabac ont remplacé les pampres et les vignes. Baco et tabaco retentissent ensemble dans les champs comme ils sont célébrés par les danses. Ainsi, à travers la flamme mobile des chandelles, le balai a fleuri sous les yeux attendris de la duchesse, sous les bravos et les rires de ceux et de celles qui l'entourent. Les jeunes messieurs, aussi lestes à danser des pas exotiques, d'apporter des travesties brillantes ou audacieuses ont déroulé aux pieds de chrétienne les couleurs qui furent les siennes lorsqu'elle arriva à 13 ans de son Louvre lointain, le bleu, l'incarnat, le blanc et la marante. Au final, les 16 danseurs ont revêtu le classique costume de ballet et la vedette apparaît couverte de plumes et d'aigrettes. Elle traverse la scène et Charles-Emmanuel II s'avance pour rendre hommage d'un baiser à Madame Réa Halley, qui s'enorgueillit à la fois des succès d'un fils et d'un amant. Voilà, alors je terminerai en se posant cette question. Comment avons-nous connaissance, une connaissance aussi précise du divertissement d'un soir? Donc, on trouve une explication dans les travaux de Mme Mercedes Vialli-Ferrero, qui est la seule spécialiste ayant actuellement travaillé avec précision l'ensemble connu des œuvres d'Aguillier. On suppose que le ballet fut donné devant un public restreint, la duchesse et les intimes de son entourage, dans une salle relativement réduite. Elle la situe, selon la probabilité des lieux, dans le vieux palais dit des évêques de San Giovanni, proche du Duomo, du même nom, qui appartenait au complexe résidentiel que Madame Royale faisait remodeler au centre de Turin. Ensemble exceptionnel, relié par des jardins, des grilles et bientôt des galeries, qui faisait tourner à court, d'une scène à l'autre, si l'on peut dire, du palais Madame embelli au palais des Carignans. Le palais de San Giovanni, voué à la démolition et que remplacera le beau palais royal, élevait encore ses murailles austères et fortes. Sous les voûtes obscures, dans un mélange de rudesse médiévale et de fantaisie renaissante, c'est peut-être dans la salle d'armes que le tabac fut donné ce soir du 1er mars 1650. Dans les archives du duché subsistent, au même titre que les registres de comptes et les recueils d'actes, une suite de manuscrits destinés à conserver le souvenir des fêtes de la cour. Arguments, décors, partitions, costumes. 13 seulement sont parvenus jusqu'à nous, souvent régis par des règlements qui figurent dans la comptabilité ducale. Parmi eux, celui du tabac. Un étui de maroquin rouge aux armes de Savoie, doré de fers à la dentelle comme un portefeuille de ministre, contient le recueil de 29 feuillets de vélin où les miniatures tracent des corps et entrées et alternent avec le résumé de chacune de ces entrées. Texte probablement écrit par et sous la dictée de Philippe Daglier, car tout semble consigné à l'intention d'un futur metteur en scène. C'est à Thomas Borgogno qu'est dû le manuscrit d'Thomas. Le prix qui lui fut payé est extrêmement bas, 150 livres, alors que les autres manuscrits ont été payés plus ou moins de 1500 livres. On en déduit qu'il fut secondé par l'un de ses aides. Borgogno ne se contente pas de nouer et dénouer en paraphes et en figures ces traits dont la précision tourne à l'allégorie ou à l'humour. Il y marie des éléments de dessin traités avec la finesse d'une préparation pour cuivre. Il obtient ainsi des ornements, personnages, arabesques, fruits ou fleurs qui apportent une épaisseur, une densité à l'ensemble. Ce qu'on a vu, hein, tous les costumes très chromés. Un tel manuscrit, on le voit, n'a donc aucun rapport avec le programme d'un spectacle. La fête finie, c'est un véritable album de souvenirs que devaient tenir entre leurs mains les amants de Turin.